Dingo, chapitre 8. Les événements allaient se précipiter coup sur coup avec une rapidité foudroyante, et dès lors je ne vécus plus que dans le cauchemar. Je rentrai de Paris vers 5 heures du soir. Tuvin m'attendait devant sa porte. Avec une animation inhabituelle et beaucoup de gestes, il racontait au père Cornelius Fiston des histoires sans doute terribles, car à chaque parole, à chaque geste, le garde champêtre sursautait, et une expression d'effroi crispait son visage. Dès qu'il eut aperçu la voiture, le jardinier accourut au-devant de moi. « Un malheur, monsieur, un grand malheur » m'annonça-t-il d'une voix qui sonnait le glas de quelque chose, de quelqu'un, comme une tintinelle de bedeau. J'avais bien remarqué son trouble, son effarement, ses yeux un peu hagards. Cela présageait un malheur, en effet. Mais les malheurs de Tuvin, j'en connaissais par expérience, depuis longtemps, les futilités cancanières. Et puis j'étais de mauvaise humeur. Je le reçus fort mal. « Ah, vous me chantez toujours la même chose !» reprochai-je avec brutalité. « Vous êtes assommant. Dingo a encore pissé sur vos glaïeuls ?»« C'est entendu. Laissez-moi tranquille. » Cet homme acharné ne se formalisa pas. Il savait qu'il avait la conscience pure, la vérité pour lui. Sans se rebiffer, il dit d'une voix lente, très solennelle, en détachant chaque mot, chaque syllabe, de chaque mot. « Monsieur, le poulailler est détruit. »«
Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Le poulailler ? Vous êtes fou !»
Nullement intimidé, il répéta fermement. « Je dis à monsieur que le poulailler est détruit. Je ne sais si je me fais bien comprendre de monsieur. Il n'y a plus de poulailler. Plus une poule, plus un poulet, plus un poussin dans le poulailler. » Plus rien, plus rien, plus rien.
Dingo ?
Demandai-je la gorge serrée.
Dingo, oui.
Ayant respiré très fortement, il expliqua après un court silence qui me parut infiniment tragique. Les dindons, eux, ah, je ne sais pas comment, ont échappé au massacre. Ils se sont ensauvés dans le bois. Ils perchent dans les arbres. Bon. Mais... Il prit un temps, secoua la tête et il dit encore « Si ce n'est pas pour aujourd'hui, allez, ce sera pour demain. Que monsieur vienne avec nous. Il faut que monsieur voie comment son chien travaille. Il travaille bien, là. » Il ouvrit la portière, m'aida à descendre et m'entraîna vers la basse-cour. En dépit de ma mauvaise humeur, je subissais l'autorité évidente de cet homme. Il marchait très vite, j'avais peine à le suivre. Son sécateur et sa serpette faisaient, en se heurtant dans la poche de son tablier, un petit bruit qui m'agaçait. Des arbres voisins, les paons vinrent s'abattre autour de nous et se mirent à nous suivre en cortège.
« Tenez, fit-il, c'est comme cela. Ils n'en ont pas pour longtemps. »
Certes, je ne pensais pas à innocenter Dingo complètement, mais j'étais bien décidé aussi à ce que cet insupportable Tuvin eût sa part, la plus grande part, dans ce drame dont j'ignorais encore les péripéties. Je le réprimandai sévèrement, au hasard. « Pourquoi aussi avez-vous laissé ouvertes les portes de la basse-cour ? Je passe ma vie à vous le défendre. » Mais naturellement, vous n'en tenez aucun compte. » Le jardinier haussa les épaules avec plus de pitié que d'irrespect. Il sentait combien cette observation était malveillante et injuste, combien surtout elle était inutile. Il répondit dignement, mais avec force.
« Ouverte, fermée, qu'est-ce que ça fait à un chien comme ça ?
Ah, les portes ne l'embarrassent guère. »
« Ni les murs. Il s'en faut. Il s'en faut bien. Monsieur va voir. »
C'était quelque chose d'horrible, en effet, ce que je vis, et comme je n'eusse pas osé l'imaginer, moi qui pourtant ne recule pas devant l'horrible.
toutes les poules étranglées, éventrées, toutes les poules mortes, déjà raidies, étaient rangées, comme pour une exposition, côte à côte, méthodiquement, par rang de taille, sous le hangar bouleversé de la basse-cour. Il y en avait 100. Les unes semblaient intactes, sauf leurs plumes qui étaient farouchement rebroussées et mouillées de bave sanglante. Des autres, aplaties, tordues, embouillies, les entrailles sortaient et dévidaient sur le sable leurs anneaux ronds, ainsi que des pelotes de laine emmêlées par un chat. Les mangeoires renversées, les pondoirs arrachés de leurs crochets, les abreuvoirs siphoïdes roulant à terre et achevant de répandre leur eau, avec un petit bruit sinistre d'agonie, et les grillages tordus et les perchoirs brisés. Tout cela ajoutait à la désolation du spectacle. On eût dit qu'une grande force de destruction, un formidable cyclone, une invasion de bêtes forcenées, avait passé par là. Tuvin attendit que l'horreur de ce spectacle eût bien pénétré en moi. Puis, lorsqu'il me jugea monté au point d'indignation qu'il fallait, « Voilà, fit-il, je n'ai touché à rien, à rien. J'ai voulu que monsieur voie la belle ouvrage de son chien. Eh bien, la voilà. » Je ne pus m'empêcher de pousser ce cri désespéré. « Le tableau de chasse, lui aussi !» Il n'y avait plus à douter, plus à espérer. Dans un éclair de désastre, j'eus la divination du futur. Le malheur était sur Dingo et sur nous. Le malheur était sur Ponteil. Le malheur était sur le monde. Comme je restais muet, glacé d'épouvante, n'exagérons rien, comme j'étais très ennuyé, Tuvin, moitié content parce qu'il triomphait, moitié triste parce que c'était un bon serviteur, disait « Ça devait arriver, un jour ou l'autre. Ah, ça devait arriver. Et qu'est-ce que monsieur va faire de Dingo maintenant ?» Je ne me demandais pas ce que j'allais faire de Dingo. Je me demandais plutôt ce que j'allais faire de Tuvin, coupable du plus grand des crimes, d'avoir eu raison contre moi. Avec une merveilleuse injustice, je me disposais à prendre contre lui les mesures les plus sévères, quand un détail que nous n'avions encore remarqué ni l'un ni l'autre me frappa de stupéfaction et d'admiration. Au milieu de ce carnage, sur le sol jonché de débris, rougi de sang, çà et là ouaté de plumes arrachées, dont quelques-unes, soulevées par le vent, voletaient dans l'air en flocons légers comme de la graine sèche de tremble, j'aperçus de place en place des œufs qui arrondissaient leur blancheur ovale, immaculée. Étonnant prodige! Pas un seul de ces œufs pondus sous la pression féroce de la mâchoire de Dingo n'était cassé, n'était même taché. Leur coquille si fragile restait intacte, éblouissante sur le champ de massacre, comme s'ils eussent été posés par une main délicate sur un coquetier. « Oh ! Oh ! » suffoqué Tuvin, que cette infernale adresse de Dingo terrifiait. Ses œufs le fascinaient. Il y voyait quelque chose de surnaturel, une preuve du diable. Plié en deux, la bouche ronde, les sourcils remontés jusqu'au haut du front, les paumes à plat sur ses cuisses tremblantes, il ne pouvait détacher ses regards de ses œufs qui l'affolaient et dont il n'eût voulu manger pour rien au monde. Et il gémissait. « C'est le diable, monsieur! Je vous jure que c'est le diable! Ah! Qu'est-ce qui va encore arriver ?» En me retournant brusquement, je vis Dingo à 20 pas de nous. Il devait être là depuis quelques minutes. Assis sur son derrière, bien tranquille, il nous regardait du coin de l'œil et il regardait les poules mortes, d'un air satisfait et en vérité ironique. Non seulement il ne semblait pas se douter du crime qu'il avait commis et le regretter, mais visiblement il en était fier. qu'on me permette cette expression familière, la seule qui puisse peindre exactement son attitude. Il rigolait. Cette bravade m'irrita au plus haut point. Est-ce que, sincèrement, elle m'irrita? Je n'en suis pas très sûre. En tout cas, pour sauvegarder la morale, je criai d'une voix molle « Misérable! Ah, misérable !» Puis je courus sur lui, brandissant un râteau qui se trouvait contre un arbre à portée de ma main. Mais Dingo se leva, sans hâte, se dirigea vers le petit mur du fond qui donnait sur le bois, et le franchissant d'un bond léger, il disparut sous les feuilles, dans le taillis. « Monsieur voit, » dit Tuvin. « Les portes, les murs, monsieur voit, il s'en fout. » « Tout cela est de votre faute, » répliquai-je. « Désormais, je vous engage à faire attention. » Et je pris congé du jardinier, en lui tournant le dos grossièrement. Ce soir-là, Dingo ne rentra pas à la maison. Je sus qu'il avait passé toute la nuit à rôder autour des sapins où les dindons s'étaient perchés. 2 jours après, le jardinier vint encore au-devant de moi. Il s'arrachait les cheveux de colère et de douleur. « Les dindons, monsieur! Ah, je l'avais dit à monsieur! Tous, tous, tous! Et les paons, nos paons si beaux! Tous, tous, tous! C'est à vous crever de cœur! Et mes lapins de Sibérie, les pauvres petits lapins blancs que monsieur m'avait donnés! Tous, tous, tous! » « Que voulez-vous que j'y fasse ?» me contentai-je de répondre. Et je le laissai à ses lamentations. D'ailleurs, je commençais à m'y faire, je commençais à m'habituer aux crimes de Dingo. Et ce fut bientôt le tour des canards, des oies de Siam, des cygnes blancs, des cygnes noirs, des bernaches, sarcelles et de tous ces jolis volatiles qui ornaient la pièce d'eau. Puis, les bêtes du voisin y passèrent, et toutes celles du voisin de mon voisin. En un mois, Dingo avait ravagé tous les poulaillers, tous les clapiers, toutes les volières, toutes les cages, toutes les mares du village. Un mois seulement, et je crois bien que, de toutes les bêtes vivantes du village, il ne restait plus que les habitants. Il y eut de terribles tragédies. Comme je sortais de chez moi un après-midi, par la grille qui donne sur la grand-place, je vis que Ponteil était en rumeur. À ce rassemblement inusité, à cette effervescence, je compris tout de suite qu'il s'agissait de Dingo. Heureusement, Dingo ne m'avait pas accompagné. Il était resté dans mon cabinet de travail, près de Miche, qui avait grand mal au cœur, pour avoir dévoré une musaraigne le matin. Que serait-il advenu s'il m'eût accompagné? Je ne puis penser à cela sans un frisson. Une grosse dame, une dame énorme et furibonde, en qui je reconnus la belle Irma Pouillot, pérorait, gesticulait violemment parmi d'autres femmes, des gamins, des chiens rassemblés. Dès qu'elle m'eut aperçue, elle resta d'abord interdite de ma présence, et comme suffoquée de mon audace. Puis elle se précipita sur moi en agitant une écumoire de cuivre rouge, encore toute poisseuse de sirop de groseille. Elle était habillée à son ordinaire d'une vieille robe de soie noire avec un tablier de cotonnade bleue, tout taché du jus des groseilles, et dont un des coins se relevait sur ses hanches formidables. Comment ne pas rire à la vue de cette monstrueuse poitrine, de ce triple menton, de ces joues empourprées de colère et de couperose, et de ce crâne dénudé d'où s'élançaient 2 petites mèches grisâtres, en vrille. « Ah, c'est vous » glapit-elle. Elle s'enhardit jusqu'à me tutoyer. « Ah, c'est toi, toi, ah, te voilà, tu tombes bien, chameau, assassin !» « Cochon !» S'excitant à ses propres injures, elle voulait me frapper. Le voulait-elle vraiment? De son écumoire. Je reculai vivement, non par peur de l'écumoire, mais je crus, ma parole d'honneur, je crus que, dans l'effort de son bras levé, le corsage de la dame allait soudainement éclater et que je serais roulé, emporté, englouti dans le torrent de ses seins débordés. Elle hurlait. « Mes cobayes ! Je veux mes cobayes, entends-tu ? Tu vas me rendre mes cobayes !»«
Ces cobayes, maintenant. Allons bon. »
Tout à coup attendrie. « J'ai levé des cobayes, monsieur, » pleura-t-elle en hachant ses mots. « De pauvres petits cobayes pour l'Institut Pasteur. C'était la curiosité du pays. Si vous les aviez vus dans leur grande cage, sur la pelouse du jardin, au soleil. Ah, si vous les aviez vus, c'était si gentil, si gentil !» Et elle s'adressait à tous. « N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ils poussaient comme des anges, les amours. Ah, les pauvres petites bêtes !» Elle souffla un peu. Je ne disais rien, je ne savais que dire. Et d'ailleurs, quoi dire devant une si sincère douleur ? Je n'avais qu'à la respecter par mon silence. Elle reprit d'une voix qui recommençait à s'aigrir, mais d'où l'attendrissement n'était pas encore tout à fait parti. « J'en avais 200, monsieur ! Qu'est-ce que je dis ? Plus de 200 ! N'est-ce pas, Mame Patard ? Elle peut vous le répéter, Mame Patard. Plus de 200 !»«
Pour sûr !» acquiesça Madame Patard. « Plus de 200 !»«
Et des frisés, monsieur, des angoras, des jaunes et blancs, des blancs et noirs, des tout blancs, des tout jaunes, des tout noirs. Oui, monsieur, et je n'en ai plus. Ils sont tous morts, tous tués. C'est une vraie boucherie. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Et l'Institut Pasteur, qu'est-ce qu'il va devenir lui aussi ? Plus de cobayes ? Oh, tous tués, tous morts, tous, tous !»
Brusquement, l'écumoire redevint menaçante. Les seins s'enflèrent sous le corsage comme de grosses houles comprimées entre les murs d'un môle.
« Et c'est cet abominable chien ! Non, non, on n'a pas le droit d'avoir un chien comme ça. On n'a pas le droit. Vous entendez, assassin ? On n'a pas le droit. On le tuera, votre chien. Je le tuerai, moi. Oui, oui, je le tuerai, chameau !»
Pendant ce temps-là, la cuisinière du curé accourut. C'était une petite femme noiraude et dont la paupière révulsée, paralysée, lui faisait sur la face comme une plaie. Des bras maigres, secs, couleur de cuivre rouge, sortaient de ses manches retroussées. Elle ne courait pas, elle dansait comme une sorcière, s'adressait à tous, et des clés tintaient dans la poche de son tablier soulevé.
« Ma pie ! » hurlait-elle. « Ma pie ! Une pie si tellement apprivoisée, qui chantait les vêpres !»
Elle prit à témoin Madame Pouillot.
« Vous l'avez entendu 100 fois, Madame Pouillot !»
Et comme je souriais à force de stupéfaction,
« Oui, qui chantait les vêpres, hérétique, et qui criait « À bas la République !» Une pie si instruite, si tellement mignonne !»« Mes cobayes, mes cobayes !»
appelait sans cesse Madame Pouillot, qui ne voulait pas distraire l'attention de la foule au profit de la pie du curé. Mais la cuisinière hurlait plus fort.
« Ma pie ! Ma pie !»
Une autre pleurait.
« Mes petites souris blanches !»
Une autre encore, en fossé.
« Mon écureuil ! Mon écureuil !»
Le groupe des femmes avait grossi autour de moi. Des visages indignés se montraient aux fenêtres entre des pots de fleurs. Sur le pas des portes, on gesticulait. Les gamins, soufflant dans leurs mains encornées, faisaient « Ouh ! Ouh ! Ouh !» Des hommes en tricot de laine, le cou nu, le ventre serré par un tablier de cuir, sifflaient
« Étranger ! L'étranger ! Le sale étranger !»
Les chiens aboyaient
« Ouah ! Ouah ! Ouah !»
Et dominant tous ces bruits, la voix de Madame Irma Pouillot
« Mais mes cobayes !»
Et dominant celle de Madame Irma Pouillot, la voix plus stridente de la cuisinière du curé.
« Ma pie ! Ma pie !»
Un caillou, lancé je ne sais d'où, par je ne sais qui, effleura le bord de mon chapeau. Je vis une fourche oscillée par-dessus les têtes. Ses dents brillaient dans le soleil. J'eus beaucoup de peine à me débarrasser de ces femmes, de ces chiens, de ces gamins et de la foule qui s'ameutait de plus en plus contre moi. Et cela finit, comme finissent toutes ces histoires tragiques, comme finissent toutes les révolutions. Amicalement, je payais. Le lendemain de bon matin, je reçus la visite de M. Théophile Lagneau. Je ne doutais pas un instant qu'il ne vînt m'apporter les revendications et les plaintes des habitants de Ponteil à propos de mon chien. Mais je connaissais assez M. le maire pour savoir qu'il ne serait question au cours de cette visite ni de mon chien, ni de revendications, ni des habitants de Ponteil. Jamais il n'abordait de front un fait, une affaire ou une idée. Il tournait autour avec une lenteur prudente et une abondante prolixité, jusqu'à ce qu'il eût trouvé le moyen d'en parler d'une manière évasive, et même de n'en pas parler du tout, tout en parlant. Quand il n'avait pas trouvé ce moyen, il ne pensait plus qu'à trouver le moyen de s'en aller, qu'il ne trouvait jamais qu'au bout d'une heure ou deux. Et afin que vous ne puissiez soupçonner qu'une grave question l'eût amené chez vous, il ne cessait de répéter « Je passais, je suis entré. Il y a si longtemps que je n'ai eu le plaisir de causer avec vous. Je suis entré. Voilà. » Nous échangeâmes quelques paroles insignifiantes et courtoises, quelques vagues souhaits sur nos santé réciproques, quelques pronostics, ni bons ni mauvais, sur la récolte prochaine. Et quand cela fut fini, quand ce sujet eut été épuisé, nous le reprîmes sous une autre forme. Monsieur Lagneau était gêné, comme toujours, et comme toujours, souriant. La tête un peu baissée, il était assis à l'extrême bord du fauteuil, et, les coudes aux cuisses, il pétrissait d'une main molle son chapeau entre ses mollets écartés. « Je passais, je vous sais matinal, alors voilà. » Bien qu'il se fût toute sa vie ingénié à ce qu'aucune expression ne vînt dénoncer la moindre pensée, le moindre désir sur sa physionomie, ce perpétuel sourire qu'il avait le rendait avenant, sympathique. Mais un homme habitué à l'observation humaine n'eût pas été long à découvrir, derrière ce sourire volontairement inexpressif, tout un fond de ruse médiocre, et même de fortes préoccupations ambitieuses. Ils connaissaient admirablement, jusque dans le tréfond de leurs âmes ténébreuses, les paysans. Et son succès auprès d'eux, il le devait à ce qu'il était bien résolu à ne jamais les froisser, à entrer dans toute leur manie croupissante, dans toutes leurs passions haineuses et cupides qu'il flattait, qu'il exaltait, d'autant plus qu'il simulait quelquefois de les combattre. En politique, il était radical, si on le poussait un peu. Radical socialiste, ma foi. Pourquoi pas? D'ailleurs, il admirait fervemment Méline et son œuvre économique. Il allait à la messe, communiait à Pâques pour plaire à sa femme et pour plaire à tout le monde, surtout à ceux qui l'attaquaient. Il défendait l'idée de la propriété individuelle avec une férocité meurtrière, si toutefois M. Lagneau eût été capable de commettre un meurtre autrement qu'en pensée et en souriant. L'existence de M. Lagneau était simple. Elle n'avait pas d'histoire, pas d'autre histoire que des histoires rassurantes. Elle s'écoulait harmonieusement, sans autres accidents que du bonheur, un constant bonheur. En apparence, du moins, car ce qui se passe dans l'âme des gens heureux, ce n'est pas toujours du bonheur. Et ils ne savent pas ce que c'est, et ils croient souvent que c'est du malheur. Monsieur Lagneau était
un enfant du pays. Fils d'un gros cultivateur de Ponteil, le jeune Théophile avait reçu exceptionnellement un commencement d'instruction. Mis au collège de Beauvais, il avait poussé ses études, sans éclat et bravement, jusqu'à la troisième. Ensuite de quoi il avait été renvoyé pour des faits sur lesquels la famille garda le plus strict secret. Comme il ne montrait aucun goût pour la culture, il fut placé en apprentissage, à Courtoise, chez un de ses oncles qui fabriquait des paniers, des séchoirs, des éclisses, toutes sortes d'appareils qui servent à l'industrie fromagère. Il fut actif, ingénieux, discipliné, empressé de plaire. Il avait déjà son sourire. Et, à la mort de son oncle, qui était veuf et sans enfant, il hérita de la petite usine. Il avait alors 20 ans. Grâce à cette industrie qu'il sut développer, il se tint en contact permanent, par de fréquentes visites commerciales, avec les paysans de la région. Épousa à 24 ans une jeune fille des environs de Dieppe, affligée d'une coxalgie, qui ne lui apporta pas moins de 6 belles 1000 livres de rente, et dont il eut une fille scrofuleuse, aux trois quarts idiote. À 40 ans, riche, considéré, décoré du mérite agricole, il revendit son usine. Il vint s'installer à Ponteil, où il se fit bâtir la plus importante maison du pays. Son père était mort, sa ferme louée avantageusement. D'autres terres, qu'il acquit à bon compte, furent louées également. Il n'avait plus qu'à se laisser vivre, ce qu'il fit, et la vie qu'il mena était en apparence oisive, mais en réalité très laborieuse. 2 ans après, il était nommé maire, ensuite conseiller d'arrondissement, président d'un comité électoral. Sans l'avouer, il ambitionnait le conseil général, la députation. Tout, il ambitionnait tout, sans jamais cesser de sourire, même à ses ennemis, car un homme si parfaitement heureux a toujours des ennemis. « Je passais, alors je suis entré. Voilà !» répétait Monsieur Lagneau pour la 10e fois. Dingo somnolait, étendu sur le divan, fatigué peut-être de tous ses crimes. Monsieur Lagneau ne le regarda pas, affecta de ne pas le regarder, car un regard, si indifférent qu'il fût, de Monsieur Lagneau sur Dingo, aurait pu me donner une indication sur le but de sa visite. Avec un intérêt exagéré, il regarda Miche, qui, près de moi, sur mon bureau, était immobile comme une statuette de bronze noir, et songeait, les yeux clos. Je passais, et savez-vous une idée qui m'est venue? Enchanté de la connaître. Oui, une excellente idée, je crois. Excellente. Alors, vous me permettez de vous en faire part? Je vous en prie. C'est que, vraiment, je n'ose pas. Je n'ose plus. Allez donc. Eh bien, je me décide. Dingo, réveillé, se mit à s'étirer, en bâillant bruyamment. Puis, sans s'occuper de Monsieur Lagneau, il alla gratter à la porte qui donnait sur la terrasse. Pour ne pas être forcé de le voir, le maire poussa son fauteuil face au mur, de manière à tourner le dos au chien. Miche, d'un bond leste, sauta sur le tapis et suivit Dingo. Je leur ouvris la porte et ils disparurent en courant. Monsieur Lagneau avait le menton et les yeux méditativement levés vers le plafond. Quand je fus revenu à ma place, le maire, dérangé par ce petit incident, resta silencieux quelques secondes. Il cherchait à renouer le fil cassé de son discours. « Eh bien, dis-je, votre idée, mon cher maire. Ah oui, c'est juste. Eh bien, voilà ce que c'est. Nous allons avoir, dans 1 mois et demi, la distribution des prix à notre école. Oui, j'ai pensé, et je puis vous le dire, le conseil municipal a pensé, nous avons tous pensé, vous comprenez, Enfin, nous serions heureux si vous vouliez bien présider cette petite solennité laïque. » Il appuya sur le mot en le répétant. « Laïque. Remarquez, laïque, tout ce qu'il y a de plus laïque. Et en outre, si vous vouliez prononcer à cette occasion un de ces discours... » Ne trouvant pas d'épithète assez forte pour qualifier comme il convenait ce discours futur, il se frotta les mains vigoureusement, comme s'il avait des joies immenses en perspective. « Oui, oui, un de ces discours... Mettons, pour ne pas être trop gourmand, une allocution, une de ces allocutions, comme vous seul. Ah, cher monsieur, quel plaisir, quel honneur pour nous. J'insiste encore sur le caractère de la solennité. Tout ce qu'il y a de plus laïque. » Il ajouta en s'inclinant légèrement. La population tout entière, dont je suis ici l'interprète, le faible interprète, hélas, la population tout entière, qui vous aime, qui vous estime, vous serez infiniment reconnaissante. » Quoi qu'il fît, il y avait une pointe d'ironie dans son sourire et dans sa voix. Une petite lueur jaune, un rayon trouble, brillait au coin de ses yeux. Après l'espèce d'émeute qui, la veille sur la place, avait si bien mis à nu les sentiments de la population de Ponteil à mon égard, venir me parler de sa reconnaissance, de son affection, c'était un peu bien hardi, un peu bien excessif. Je flairais un traquenard, un guet-apens, dont monsieur le maire pourrait se laver facilement au cas qu'il réussît. Peut-être était-ce simplement un détour tortueux pour aborder cette question du chien qu'il ne voulait pas, à son habitude, aborder franchement. Sans doute, il espérait que j'allais protester contre l'attitude de la population et, d'incidence, en arrivait à me dire les choses qu'il désirait me dire, qu'il était chargé de me dire, évidemment. Je répondis, avec beaucoup de naturel, en simulant les plus profonds regrets. « Ah, mon cher maire, comme j'eusse été heureux de manifester publiquement, moi aussi, mes sentiments affectueux envers cette vaillante population de Ponteil, que j'estime, que j'aime. Mais impossible, je dois m'absenter. Un voyage indispensable. Indispensable. » « C'est fâcheux, très fâcheux, » dit le maire déçu. « Fâcheux pour moi, surtout. Remettons cela l'année prochaine, si vous le voulez bien. » « Oui, oui, certainement. C'est fâcheux. Voyons, si j'insistais encore. » « Vous me donneriez encore de plus pénibles regrets, voilà tout. » Excessivement fâcheux. Et il se tut. Le silence qui suivit fut un peu gênant. La tête un peu plus baissée, les coudes plus lourdement appuyés sur ses cuisses, le maire donnait, en le tapotant, les formes les plus étranges, les plus imprévues à son chapeau. Il avait repris son sourire. Après quoi nous échangeâmes à nouveau des paroles insignifiantes et courtoises, de vagues souhaits sur nos santé réciproques, quelques pronostics ni bons ni mauvais sur la récolte prochaine. Et voyant qu'il n'y avait plus à retrouver une conversation définitivement égarée, il se décida à prendre congé. Je vis que le maire, en sortant de chez moi, allait, non pas directement, mais en faisant de nombreux détours, chez Jolin, où l'attendaient quelques personnalités importantes de la commune. « Eh bien ? » demanda-t-on. « Je lui ai rivé son clou, » répondit le maire. « Ça n'a pas traîné, et voilà ce que j'ai décidé. Aujourd'hui même, je vais faire prendre par l'adjoint un arrêté obligeant les chiens, sauf les chiens de berger, les chiens de ferme, les chiens de garde, à porter des muselières sous peine d'amende. « Sous peine de confiscation !» fit une voix. « Oui, oui, sans doute, mais plus tard,
Attendons, attendons, n'allons pas si vite. »
Jolin versa du vin blanc et ils trinquèrent. Le soir même, je rencontrai le père Cornelius Fiston, sortant par la petite porte de la grille. Il avait sous le bras, enveloppé dans du papier, des salades et un chou que lui avait donné en cachette le jardinier. Se croyant en faute, le vieux garde champêtre voulut m'éviter, chercha à s'esquiver. Je l'appelai. Eh, père Fiston, lui dis-je amicalement, vous savez, le jardin est à vous. J'ai prévenu Tuvin. Tout ce que vous voudrez. Et tenez. Je lui mis dans la main une pièce de 20 francs. C'est Dingo qui vous les offre, père Fiston. C'est Dingo. Rappelez-vous. Il était stupéfait, ahuri. Ses regards vacillants allaient de moi à la pièce qu'il avait dans la main. Et ses paupières battaient et ses gros doigts tremblaient, comme s'il venait d'être frappé d'un étourdissement. « C'est Dingo, père Fiston !» Il ne pouvait pour ainsi dire pas parler, et il hoquetait. « Ah, sacristi ! Ah, sacristi ! À la bonne heure !» Dès le lendemain, en effet, l'arrêté de l'adjoint, car afin de justifier cette signature insolite, le maire était parti la veille au soir pour Courtoise, fut tambouriné dans tout le village par le père Cornelius Fiston, puis affiché dans un cadre grillagé à la porte de la mairie. De cet arrêté, il s'ensuivait que tous les chiens du pays, à l'exception de Dingo, qui n'était d'ailleurs désigné que par une allusion incompréhensible, étaient exonérés de la muselière. Bien qu'il fût nul, on le célébra par une approbation générale. Et il arriva aussitôt une chose épouvantable. En dépit de l'arrêté de l'adjoint, et comme si le malheur n'eût attendu que lui pour se manifester, on apprit brusquement ceci. Toute la campagne, les campagnes avoisinantes étaient terrorisées. Bientôt, fermes, champs, prairies, boquetaux se couvrirent de cadavres et de blessés. Moutons égorgés dans leurs parcs, cochons râlant au fond des fossés, chèvres expirant sur le talus des routes, au bout de leurs piquets, vaches attaquées dans les pâtures, ânes éclopés, chevaux rompant leurs entraves et galopant, crinières horrifiées, à travers la plaine. Quelques-uns, plus stupides que les autres, s'allèrent noyer au loin dans la Viorne. On raconta que 3 poulains de 2 100, 3 magnifiques antennes avaient disparu par les trous béants des carrières de Marne. Jamais personne n'avait rien vu de pareil depuis la guerre. Dans le premier moment, on crut à une bande de loups. Et puis un cri s'éleva sur la campagne. « Dingo ! Dingo ! Dingo ! » D'une lieue à la ronde, chaque jour m'arrivèrent les plus sinistres récits et des réclamations folles, des paroles fiévreuses, des menaces, des procès et des procès, des cris de mort. Un jour, c'était une vieille sorcière d'un hameau voisin qui venait se plaindre à moi, menaçante ou pleurarde, impérieuse ou suppliante, selon le cas, et qui me disait « Cette nuit, ma vache a avorté de la frayeur de votre chien. Aussi vrai que le bon Dieu existe !» Je le prouverai. Là, j'ai des témoins. Elle est ben bas, ma vache. Elle va crever. Et pour sûr, bon Dieu, si c'est pas malheureux, une si belle vache, qui donnait 20 litres par jour, et je n'avais qu'elle pour vivre. Celle-ci, si tassée, si ratatinée, que le nez, les yeux, le menton, tout le visage avait presque entièrement disparu, n'était plus rien. Rien que des plis rugueux, accidents difformes, végétation cornée, bosses de la peau couleur de terre. Le lait s'est aigri dans le pis de ma vache. Du vinaigre, c'est plus que du vinaigre, son lait. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse à cette heure? Elle n'est plus bonne que pour l'écarisseur. Je revois encore une grande blonde,
le nez crochu qui coulait comme une fontaine et dont les lèvres étaient pour ainsi dire avalées par une bouche sans gencives et sans dents. Elle criait
« Mon vieux est mort ! Un vieux aussi ben grainé qui m'avait coûté tant d'argent et tous les œufs de mes poules ! Le vétérinaire m'a bien dit que c'était votre chien, votre sacré chien de malheur, qui lui a tourné les sangs, si c'est Dieu possible. Je l'avais vendu 80 francs au boucher d'Ambleville. Il devait venir le prendre, à ce matin. Et voilà, il est mort. Et mon petit gars qui est à l'armée, je lui avais promis 100 sous à mon petit gars. Qu'est-ce qu'il va penser de ça, lui? Je peux même plus payer le percepteur. Avec quoi que je paierai maintenant que mon vieux est mort? On va me saisir? Et mon petit gars? On va me saisir? Oh!
La maladie de la vigne, des pommes de terre, la grêle, le vent d'orage qui couche les récoltes et déracine les arbres, cette épidémie de scarlatine et de suette miliaire qui sévissait aux 4 fétus, on les attribuait à la perversité, à l'influence démoniaque de Dingo. Leurs petits malheurs de famille, leurs déceptions, leurs coups manqués, la baisse du foin, l'enchérissement du pétrole et du sucre, les paysans rendaient responsable le pauvre Dingo, comme s'il n'avait pas assez de ses propres crimes. Il faut que les hommes, les paysans surtout, qui sont toujours menés par l'idée de la divinité et qui n'admettent point la puissance et l'anonymat de l'élément, incarnent dans une figure haïe leur mécompte et leur misère. Le curé parlait enfin d'organiser des processions pieuses pour délivrer le pays de l'esprit du diable, qui s'était réfugié dans Dingo. Je connus enfin ce que c'est que la popularité et quelle sueur mortelle dut baigner le corps de Jésus, défaillant sous les outrages, à toutes les stations du chemin de la croix. Je n'osais plus sortir de chez moi, traverser le village, me montrer aux gens. Quand j'étais obligée d'aller à Paris, je gagnais au bout de l'enclos une vieille porte condamnée depuis des années et perdue dans les ronces et les rejets épineux d'acacia. Par des détours fatigants, évitant tout ce qui pouvait ressembler à des hommes, je retrouvais la route de Courtoise ou de Montbiron, où je prenais le train. Quant à Dingo, je l'enchaînais dans une chambre, comme dans une prison. Inutile précaution, peine perdue. Comment faisait-il? De même que la tude, il trouvait le moyen de s'évader des endroits les mieux fermés, et laissant là chaînes, colliers, prison, sans bruit, caché à tous les yeux, il profitait d'un relâchement de surveillance pour descendre, sortir, gagner la campagne, où souvent il restait 3 ou 4 jours sans que j'eusse de lui d'autres nouvelles que les recrudescences de clameurs et les cris de mort. Pisco avait du bon sens, de l'imagination et une certaine aptitude à l'ironie. Il se refusait à tenir pour possible que ce fût Dingo qui causa ces dévastations. Chez Jolin, il le défendait courageusement contre les buveurs indignés. « Allons donc, allons donc » faisait-il. « Une bête si douce, je le connais bien, voyons !» Il croyait, lui, à l'existence quelque part d'un animal fabuleux, d'une piterne, d'une espèce de dragon, avec une bouche de feu, une longue queue garnie de suçoirs, des ailes griffues, des pattes ailées, comme il y en avait autrefois du temps des dieux, et comme il en avait vu en Chine. Il parlait de s'armer, de fouiller les bois, les carrières abandonnées, les ruines du château de Reverchemont. Les autres haussaient les épaules par bravade, riaient, un peu pâles pourtant. « Sacré Pisco ! Puisque j'en ai vu en Chine comme ça ! Allons donc ! Allons donc, sacré Pisco. Oui, oui, rigolez, vous avez tout de même peur. Au fond, il n'était pas fâché que tant de catastrophes s'abattissent sur des gens qui le laissaient croupir dans la plus noire misère et lui refusaient du travail. Il espérait bien, dans le fond de son âme, que Dingo fût la cause de ces désastres, et il l'aimait davantage pour le mal qu'il faisait à tous ces salauds-là. Il raillait, blaguait, s'amusait. Mais à la fin, on le renvoyait un peu rudement à l'huissier, au juge de paix, au marchand de nouveautés. Est-ce qu'on a le droit de parler, quand on doit à tout le monde ? Enfin quoi, expliquait Pisco, repris par la marotte. C'est pourtant simple, je dois 9 francs. Quant au garde champêtre, à qui je faisais porter clandestinement des salades et toutes sortes de légumes, il racontait avec des détails tragiques qu'il avait raté ce sacré chien d'une seconde. Ma foi, oui, une seconde de plus, il y était. Et les journaux de la région s'en mêlèrent. On put y lire d'éloquents rapprochements historiques entre Dingo et les seigneurs de l'Ancien Régime qui buvaient le sang des paysans. On put y admirer des appels enflammés à la démocratie insultée, maltraitée par un chien de bourgeois. D'ailleurs, qu'est-ce que je faisais dans ce pays ? Quelle ambition saugrenue, quel intérêt secret m'y avait amené ? Je n'avais donc pas un pays à moi ? Je n'étais donc né nulle part ? Et puis, est-ce qu'on ne savait pas très bien que je recevais souvent des personnages louches, mystérieux, des personnages qui parlaient des langues étrangères ? Quant à Dingo, il restait calme au milieu de cette tempête, méprisant ses insinuations et ses calomnies, indifférent à la haine qu'il déchaînait contre lui et contre moi. Heureux, de plus en plus heureux. Ce qui m'irritait le plus en cette attitude effrontée, ce que je ne pouvais pas lui pardonner, c'est que non seulement il ne dissimulait pas ses mauvais coups, ne les regrettait point, mais au contraire qu'il s'en vantait, qu'il en était fier. Au fond, peut-être ne lui reprochais-je pas ses crimes, mais la manière dont il les accomplissait. C'est qu'il ne semblait pas se douter un instant de la situation intolérable où me mettaient toutes ces folies, et de ce que j'y perdais chaque jour, de tranquillité morale et de considération. Le plus grave, aussi, c'est que rien ne diminuait mon attachement. Mais comment en étais-je tombé à cet état d'impuissance ? Mon respect pour lui. Je le vois encore sur la terrasse après le dîner, humant à pleine narine les odeurs qui circulent dans les nuits d'été et qui apportent aux chiens les nouvelles de la plaine et des bois. Je suis sûre qu'il songeait, d'un cœur réjoui, aux campagnes du lendemain. Je suis sûre aussi qu'il les racontait à Miche, à sa petite amie Miche, qui exprimait son enthousiasme par des rampements onduleux, par des étirements lascifs autour de ce grand corps, allongé sur les marches encore chaudes du perron, puis par des bondissements frénétiques que rendait impressionnant, comme un rite démoniaque ou comme une danse sacrée, son pelage noir, les signes cabalistiques de sa queue et ses yeux de jade vert, fantastiquement illuminés par la lune. Je le vois encore au retour de ses expéditions, dont il sortait indemne à force de ruse, de courage, d'audace et d'esprit. La gueule encore bourrée de plumes baveuses ou de la laine sanglante des moutons, il débordait de joie bruyante, de gaieté ivre, de tendresse exaltée envers tout le monde. Il me léchait les pieds, les mains, se frottait à mes jambes, me sautait au menton, à la poitrine, comme pour me remercier, m'étreindre, m'embrasser. Et il me parlait, et je l'entendais vraiment, qui me disait « Ah, je me suis bien amusée aujourd'hui. Quelle bonne journée, si tu savais. Je vais te raconter ça tout à l'heure. C'est d'un comique. Ne fais donc pas la tête. Qu'est-ce que tu as ? Puisque je te dis que je me suis follement amusée. Allons, voyons, caresse-moi. Pourquoi ne me caresses-tu pas ? » Je voulais l'envoyer à tous les diables, prononcer un discours irrité. Finalement, je passai ma main sur son beau poil doré qui sentait l'herbe, la terre grasse et le sang. Ah, Dingo ! Dingo ! Et se renversant sur le dos, les pattes en l'air, et Miche comme une balle entre les pattes, il se roulait avec volupté sur le plus beau de mes tapis persans.